roi au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a tenté de rassurer les marchés, déclarant que l'économie du pays est fondamentalement forte. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Londres après une visite à Bruxelles où il a rencontré les dirigeants de l'OTAN. Washington s'est dit très préoccupé par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et M. Kerry cherche à calmer les inquiétudes des alliés sur ce qui peut arriver après le Brexit. Israël et la Turquie ont officialisé la normalisation de leurs relations après 6 années de brouille. Ce rapprochement est salué par l'ONU comme un signal d'espoir pour le Moyen-Orient dans la crise. Il faut dire que les deux pays étaient de proches alliés jusque dans les années 2000. Voilà pour ce bulletin. Au micro, c'était Morgane Gaillac.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, mon nom c'est Bagassi Koura, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses de l'actualité sportive. Ce soir, plein feu sur l'Euro 2016, mais aussi la Copa América et Messi qui prend sa retraite internationale en sélection après une nouvelle défaite de l'Argentine face au Chili. Et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique, vous pouvez aussi nous appeler en direct au 001 202 619 31 40. C'est le 001-202-619-31-40. Avec nous ce soir, nos consultants. D'abord à Paris, Christian Mpanzou. Bonsoir Christian.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Et nous avons à Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir à tous.
Voilà, en ce moment, nous avons donc ce match qui vient de commencer entre l'Angleterre et l'Islande. 1-0 en ce moment pour l'Angleterre face à l'Islande. Nous jouons la 4e minute. Christian, est-ce que c'est un score surprenant? Parce que l'Islande avait quand même beaucoup surpris. On se disait que la tâche allait être compliquée pour les Anglais, mais ça commence bien pour eux.
Bah, surprenant, pas vraiment, puisque, comme vous l'avez dit, l'Angleterre est quand même un degré supérieur à l'Islande, même si les Islandais ont montré de très belles choses dans la phase de groupe. On ne s'attendait pas à ce que les Anglais prennent l'avantage aussitôt, mais là, vous l'avez vu comme moi, Bagassi, le gardien de but fait une faute sur Raheem Sterling dans la surface. Faute vraiment totalement sifflable et sifflée par l'arbitre, penalty, et Wayne Rooney qui s'exécute et qui ouvre le score pour l'Angleterre.
Voilà, l'Angleterre qui mène donc 1-0. Nous jouons la 5e minute, c'est le dernier match de ces 8e de finale. Et on me signale que nous avons aussi Nicolas Pinault qui est en ligne. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous êtes sur Sporama et donc sur VOA Afrique dans le match phare de ces 8e de finale. C'était tout à l'heure. L'Italie qui sort victorieuse face à l'Espagne 2-0. Nicolas, l'Italie se pose désormais en grand favori pour le titre.
Eh oui, Bagassi, l'Italie qui avait déjà battu la Belgique, on s'en souvient, de façon impressionnante d'entrée de jeu lors de cette phase de poule de l'Euro. Et l'Italie qui récidive en battant le champion en titre espagnol 2-0. L'Italie qui confirme donc son statut de favori. L'Italie qu'on annonçait comme moribonde avant le début de cet Euro. L'Italie qui finalement s'est sortie d'un groupe plutôt difficile en première position. Et surtout, l'Italie qui bat, vous l'avez dit, l'Espagne 2-0. Alors le prochain match, ça ne va pas être du gâteau face au champion du monde en titre,
allemand,
qui s'est rassuré en battant 3-0 évidemment la Slovaquie lors des huitièmes de finale. Mais cette équipe d'Italie qui monte en puissance, qui impressionne, Bagassi.
Voilà, et Jules, vous avez entendu Nicolas, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe italienne?
Oui, mais l'équipe d'Italie est une équipe de grande compétition qui se programme pour une compétition longue. Donc, elle ne fait pas elle ne joue pas les matchs pour plaire au public. Et on a vu que contre la Belgique, elle a démarré et a gagné tactiquement le match qu'on croyait, et disons que à l'avantage de la Belgique avant la rencontre. Et par la suite, tous ses adversaires qu'elle a rencontrés, elle les a pratiquement fait jouer ou alors elle les a surpris et a gagné par un score relativement court. Donc, les Italiens ont reposé leurs joueurs lors du dernier match. Ils ont fait tourner largement. Et donc, c'est tout frais qu'ils ont attaqué l'Espagne et ont aussi fait déjouer l'Espagne et qu'on n'a pas reconnu sur le terrain. Donc, c'est un jeu typiquement italien. Les Italiens gagnent tactiquement leur match et ce sont des bons calculateurs qui se programment sur la durée de la compétition.
Voilà, les Italiens donc, qui se qualifient donc pour les quarts de finale de l'Euro 2016. En battant le champion en titre, les Espagnols, 2-0. Et toujours un but partout maintenant, un but partout entre l'Angleterre et l'Islande. Un mot sur ce deuxième but, Christian.
Anglais de la part de Wayne Rooney sur penalty. Les Anglais totalement déconcentrés sur un centre islandais. Vraiment une grosse erreur de déconcentration de la part de la défense anglaise. Le numéro 6 islandais totalement libre et qui s'est permis d'égaliser devant Joe Hart qui était totalement délaissé par sa défense. Kyle, qui est sous le coup d'un carton jaune, n'a pas vraiment pu intervenir par crainte de provoquer un pénalty. Les Anglais se font égaliser, c'est très surprenant et il ne va pas falloir qu'ils répètent ce genre d'erreur de déconcentration puisque les Islandais, eux, on le voit, ils ont vraiment rien à perdre. À être en huitième de finale, c'est déjà énorme pour eux. Alors vous imaginez s'ils arrivent à se qualifier pour les quarts de finale, ce serait vraiment extraordinaire.
Et surprendre est une chose qu'ils savent très bien faire. Donc un but partout en ce moment entre l'Angleterre et l'Islande dans ce dernier match des huitièmes de finale de l'Euro 2016. On me signale que nous avons Ousmane en ligne de Libreville, je crois. Bonsoir. Herman, bonsoir.
Herman, oui.
Oui, on vous écoute.
Oui, merci Bagassi. Enchanté donc de pouvoir faire cette émission avec vous. Oui. J'ai participé comme plusieurs de vos auditeurs à travers la toile sur le thème. Alors comme je l'ai un peu évoqué dans mon commentaire, il faut dire Lionel Messi, puisque c'est l'actualité du moment.
Vous dites qu'il ne s'est jamais senti argentin.
Oui, Lionel Messi. Est-ce que c'est quelqu'un, on va dire, c'est un talent qui a été façonné en Espagne et qui bien malheureusement pour les Argentins, donc, et plutôt, se sent plutôt à l'aise dans la peau d'un Espagnol que dans la peau d'un Argentin. Vous voyez le degré d'implication de Messi vis-à-vis de sa sélection. C'est le jour et la nuit à comparer avec ce qu'il fait avec Barcelone. On a comme l'impression même que Messi est d'origine catalane que plutôt argentine. Donc, je pense que c'est pour raison pour laquelle il n'est pas beaucoup plus impliqué avec son pays d'origine. Et quand vous regardez en termes de culture, ça m'étonnerait que Lionel Messi incarne quand même à 90% la culture argentine. Donc il y a qu'à voir un peu parfois l'état d'esprit avec lequel il se déplace sur le terrain lorsqu'il est avec l'Albi Céleste. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, ça, moi personnellement, ça ne m'étonne pas un peu des contre-performances de Lionel Messi avec cette équipe. Et puis c'est surtout les matchs décisifs où il manque. Vous vous rendez compte que c'est le quart final qu'il a joué avec l'Argentine qu'il perd. Vous avez vu la même équipe du Chili qu'il a affronté donc en ouverture de la Copa América, et qu'ils battent, donc l'Argentine bat le Chili 2-1, en l'absence de Messi qui n'était pas là. Donc curieusement, il participe à la finale et c'est lui qui enfonce complètement son pays. Vous comprenez que, et c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai du mal à accepter que des gens disent que Messi, c'est le génie du football mondial.
Oui, d'accord. Merci infiniment Herman depuis Libreville au Gabon. Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Sporama en direct de Washington au micro Bagassi Koura. Alors on va parler maintenant de l'équipe de France, hein, les Bleus qui ont arraché hier leur ticket pour les quarts. Mais Nicolas, le pays organisateur a beaucoup souffert.
Encore une fois, hein, Bagassi, cette France a deux visages. Hein, une première mi-temps complètement ratée. sans envie, évidemment, sans réussite du côté français. Des joueurs, hein, évidemment, emblématiques comme Pogba, comme Matuidi, qui ont beaucoup été décrits dans la presse française. Et puis, évidemment, il y a eu cette mi-temps, il y a eu cette France à deux visages qui montre un visage pesant. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour aller beaucoup plus loin dans la compétition? Ça va dépendre de l'adversaire, hein. Peut-être pas contre l'Angleterre, peut-être contre l'Islande. On verra l'issue de ce huitième de finale qui se joue actuellement. Mais c'est vrai que ici en France, on se pose beaucoup de questions finalement sur la stratégie du sélectionneur Didier Deschamps. Pourquoi avoir aligné cette équipe type lors de la première mi-temps? Alors évidemment, il y a cette qualification, mais encore une fois, rappelons que ce n'est que l'équipe d'Irlande. Hein. Quand on voit les beaux succès de la Belgique ou de l'Allemagne qui sont vraiment montés en puissance contre des adversaires de moindre importance et de moindre qualité footballistique, on peut quand même s'interroger sur cette équipe de France. Hein.
Voilà, on va écouter le double buteur, hein, Antoine Griezmann, qui réagit donc après le match d'hier sur le probable adversaire de l'équipe de France. Comme disait Nicolas Pineux, hein, ce serait soit l'Islande, soit l'Angleterre, les deux équipes qui sont à égalité en ce moment, un but partout, et nous jouons la 12e minute. On écoute Antoine Griezmann.
Il fallait qu'on montre vraiment qui était l'équipe de France, qui on était nous. Parce que si on restait à ce résultat, on allait passer pour des cons. Donc voilà, il fallait tout donner. Le coach a fait des choix tactiques qui nous ont aidés. Et voilà, je suis très, très content et très heureux de l'effort du groupe et de la réponse qu'on a donnée. Les débuts de match, comme j'ai dit avant, il faut s'améliorer là-dessus. Et tant qu'on gagne, c'est peu importe que ce soit la première ou la 94e. L'Islande, s'ils sont là, c'est parce qu'ils le méritent. Ils ont fini premier de leur poule. Et voilà, que ce soit eux ou l'Angleterre, ça sera un match compliqué où il faudra tout donner. Et voilà, mais comme j'ai dit, on va bien regarder le match ce soir et prendre des notes.
Voilà, on va regarder le match et prendre des notes. Christian, pour revenir à toi, hein, on aura donc vu cette équipe allemande marquer jusqu'à 3 buts face à la Slovaquie.
Bah, l'Allemagne vraiment a rassuré son monde. C'est le son de cloche que tout le monde a en France dans l'entourage de l'équipe d'Allemagne, notamment dans les médias allemands. Il y avait une petite inquiétude durant la phase de poule puisque les Allemands n'ont pas vraiment montré leur meilleur visage. Mais là, vraiment, on a vu que les Allemands, on a retrouvé cette équipe d'Allemagne qui était allée remporter la Coupe du Monde 2014 avec des nouveaux joueurs. Draxler, qui certes était dans l'effectif de la Coupe du Monde en 2014, mais qui ne jouait pas beaucoup. Cette année, c'est le joueur offensif numéro 1 quasiment de cette équipe. Juste derrière, on peut mettre un Mesut Ozil qui, même s'il a raté son pénalty face à la Slovaquie, s'est montré vraiment très bon dans l'entrejeu, des ballons très bien distillés. Et puis, ils ont enfin trouvé un numéro 9, Mario Gomez, qui enfin s'est installé. Mario Götze, lui, était numéro 9 durant les premiers matchs de l'équipe d'Allemagne. Il n'a pas convaincu. Mario Gomez, lui, s'est montré décisif. Il a marqué. On a même vu, et ça c'est un petit clin d'œil à tous les fans de l'équipe d'Allemagne depuis plusieurs années, le retour de Lucas Podolski. Lucas Podolski qui est en équipe d'Allemagne depuis 2013, il est là cette année, il n'avait pas joué une seule minute, et là il est entré en jeu puisque l'Allemagne menait 3-0, une Allemagne vraiment confiante et qui ne craint quasiment rien avant son quart de finale face à l'Italie samedi.
Voilà, l'Allemagne qui va donc affronter l'Italie, ce sera le match au sommet. Hein. On me signale que nous avons un auditeur... puisque VOA Afrique est écouté partout hein, dans le monde. Un auditeur de Koudougou, c'est au Burkina Faso. Donald Badoum, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui, on vous écoute. Donald.
Selon moi, je ne comprends pas si vous pouvez me clarifier un peu.
Oui. Alors là, vous êtes sur VOA Afrique et on parle de sport, essentiellement de l'Euro 2016, mais aussi de la Copa América et de la retraite annoncée depuis hier par Lionel Messi, qui donc décide de se mettre à l'écart de l'équipe d'Argentine.
Bon, selon moi, en tout cas, le fait qu'il a eu annoncé sa retraite, en tout cas, c'est une très bonne chose. Puisque s'il continue, je pense que à la longue, là, il sera vraiment humilié. En tout cas, du moment que nous entendons depuis, on n'a pas été humilié par son pays de l'usine.
Oui, d'accord. Merci infiniment. Ouais. Hein. Oui. Oui, merci beaucoup. Allô? Merci de nous avoir passé ce coup de fil. Et on signale que la Hongrie a été pulvérisée hein, par la Belgique. Jules, la Belgique qui rassure un peu plus parce que ses débuts du tournoi n'étaient pas assez rassurants. Hein.
Oui, bien sûr. La Belgique a été surprise en première journée
oui.
Et qui était pratiquement groguée sur le terrain, mais elle montait en puissance au fur et à mesure. Elle a les moyens, elle a l'effectif qu'il faut. Vraiment des joueurs de très haute qualité. On l'attend comme favori. Elle a démontré au fur et à mesure en montant en puissance. Et ma foi, contre la Hongrie, et bien sûr, ça a été un bon match équilibré pendant un certain temps. Mais la Belgique a montré qu'une grande équipe, justement, c'est celle qui s'est surpassée à un certain moment et fait la différence. Parce que la différence s'est faite facilement en fin de rencontre. En fin de rencontre avec le. Sur la base du jeu collectif et ensuite de l'impact des joueurs décisifs de l'équipe. Donc c'est une grande équipe qui s'avance tout doucement comme cela vers le sommet de la compétition. Il ne serait pas étonnant de la retrouver en finale.
Voilà, vers le sommet de la compétition. Et Christian, hein, un joueur c'est particulièrement distingué, hein. Il s'agit du joueur de Chelsea, Eden Hazard.
Bah, il a enfin fait un grand match dans une grande compétition. C'est ce qu'on lui reproche depuis qu'il est sélectionnable avec l'équipe de Belgique. On attend une grande performance de sa part sous le maillot belge. Et là, il a montré. Il a montré qu'il était à la hauteur malgré sa saison vraiment timide, pour ne pas dire médiocre, sous le maillot de Chelsea.
Oui. Deuxième but de l'Islande, deux buts à un.
J'ai hésité à vous le signaler, mais oui, effectivement, deuxième but des Islandais. Une frappe que Joe Hart aurait pu stopper, mais la main du gardien de Manchester City n'était pas assez ferme.
Ouais.
Et la frappe de Svensson, je crois, va tout doucement dans le fond des filets. Ouais, on le voit, voilà, c'est une frappe qui était pourtant arrêtable hein, de la part de Joar, qui est un très grand gardien, mais sa main n'était pas assez ferme. Juste pour revenir sur Eden Hazard et pour terminer sur lui, il a vraiment montré qu'il était à la hauteur et il veut que cette compétition marque le début de sa seconde partie de carrière, puisqu'il a maintenant 25 ans, il entre dans la période où il doit atteindre son meilleur niveau. Et ben, quoi de mieux qu'une belle performance durant cet Euro pour entamer cette seconde partie de carrière.
Voilà, donc l'Islande qui mène 2-1. On se rappelle que la semaine dernière, hein, le capitaine de l'Islande avait dit que leur rêve, le rêve de tout Islandais, c'est de jouer contre l'Angleterre. Et peut-être qu'on assiste là à un Brexit footballistique en direct. Donc ce soir, donc le dernier match de l'Euro, des huitièmes de finale de l'Euro 2016. Voilà, on a donc le tableau presque complet hein, de quart de finale. On aura Pologne-Portugal dès ce jeudi, Pays de Galles-Belgique et Allemagne-Italie, le choc donc de ces quarts de finale. Et puis on saura si c'est finalement l'Islande qui va affronter les Bleus de l'équipe de France ou l'Allemagne ou l'Angleterre hein, qui pourra peut-être ce soir, ils ont encore beaucoup de minutes pour renverser la situation. Pour l'instant, l'Angleterre est menée 2-1 par l'Islande. Donc, on aura France, Islande ou Angleterre, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal et Pays de Galles, Belgique. Jules, un mot quand même sur Cristiano Ronaldo. On l'a vu aux côtés de l'équipe portugaise. Il n'était pas très content, mais finalement, ils ont pu se qualifier.
Là, il faut dire que le Portugal, c'est vraiment une équipe qui se qualifie vraiment à la limite de ses possibilités. C'est une équipe qui a globalement déçu. On attend vraiment qu'elle se surpasse et qu'elle se mette au niveau de sa réputation et de certains de ses joueurs. Et jusque-là, on a eu des matchs très difficiles. Le dernier match contre la Croatie est à l'exemple des autres matchs. Dans un match, il n'y a pratiquement pas eu de tir cadré, où c'est juste de l'action qui amène le but, qui réveille un peu les spectateurs pour qu'on assiste à ce score de 0-1. Donc, je crois que le Portugal a encore beaucoup à démontrer et Cristiano Ronaldo a encore le temps peut-être de montrer qu'il est le meilleur joueur européen de l'heure.
Voilà, pour une fois que Ronaldo ne joue pas contre Messi, mais les deux joueurs ont leur sort qui doivent être donc leur sort qui se joue sur les deux continents différents. Hier, Messi a perdu. Il a perdu donc en finale de la Copa América. C'était face au même Chili, le même Chili qui les avait battus en finale de la même Copa América lors de la dernière édition. Le Chili donc qui remporte la Coupe de cette année face à l'Argentine de Lionel Messi. Alors, Christian, qu'est-ce qui ne marche pas avec Lionel Messi et l'Argentine? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'ils n'ont finalement jamais rien eu.
Au final, moi, j'ai envie de poser une autre question. Je comprends pas pourquoi pourquoi est-ce qu'on pense que ça ne marche pas? Parce que je vais juste rappeler quelques petites statistiques de Lionel Messi en équipe d'Argentine. C'est 113 sélections et 55 buts. Il y a des très grands joueurs, des très très grands joueurs, qui n'ont pas gagné une seule coupe avec leur sélection nationale. Malheureusement, Lionel Messi, vu qu'il a arrêté sa carrière internationale, entre dans cette catégorie-là. C'est des choses qui malheureusement arrivent, mais je sais pas si on peut dire vraiment que ça n'a pas marché, Lionel Messi et l'équipe d'Argentine. Aller en finale d'une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Aller trois fois en finale de la Copa América, il y a des très grands joueurs sud-américains qui ne l'ont jamais fait. Alors, oui, effectivement, on peut se dire, c'est dommage, il n'a pas gagné de trophée avec l'équipe d'Argentine. Peut-être qu'il y a eu un petit souci au niveau de son placement. On ne sait pas si les sélectionneurs successifs à la tête de l'équipe d'Argentine ont réussi à trouver le bon placement pour Lionel Messi, un coup en attaque, un coup en numéro 10, un coup sur un côté. Mais très concrètement, je ne sais pas si... je pense que beaucoup de joueurs internationaux et de très grande envergure aimeraient avoir la carrière internationale qu'a eu Lionel Messi. Et je pense à justement, on parlait de Cristiano Ronaldo. Demandez à Cristiano Ronaldo s'il aurait aimé faire trois finales d'un euro et une finale de Coupe du Monde avec Portugal. Je pense qu'il prendrait. Je pense qu'il signerait dès aujourd'hui.
Ouais. Alors, Jules, vous avez certainement vu ce match et puis cette... équipe très efficace de Chili.
Oui, c'est ça la différence, justement. L'équipe du Chili est une équipe, alors que l'Argentine paraît plutôt être une sélection. Donc il y a une nuance entre les deux. Et concernant Messi en particulier par rapport à l'équipe, c'est qu'à Barcelone, il joue. Et son environnement est nettement meilleur qu'en équipe nationale. À Barcelone, à côté d'un Neymar, à côté d'un Suarez, un ministre derrière lui. Et jouant dans la même philosophie de jeu, c'est-à-dire le jeu limpide et spectaculaire sur une touche de balle, il est comme un poisson dans l'eau. Alors qu'en équipe nationale, ce n'est pas le cas. Et il n'est pas le premier Argentin à avoir connu ses destins. Et Di Stéfano, c'était la même chose avec le Real Madrid, 5 titres d'affilée de champion d'Europe. Mais en équipe d'Argentine, il a joué 2 fois en sélection. Il n'a rien donné. Il a joué également en sélection d'Espagne. Ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, l'environnement compte beaucoup pour l'épanouissement d'un joueur.
Voilà, Catherine Konaté sur Facebook nous écrit ceci. Ce n'est pas la fin du monde. Tout grand joueur rate facilement le pénalty, faisant référence donc à ce pénalty, à ce tir au but raté hier lors de cette finale. Et il est le meilleur des joueurs, c'est ce que nous écrit Catherine Konaté. Alphonse Boaki de la RDC, la Mannschaft aussi se classe parmi les favoris pour un Boateng tout feu, tout flamme. Il parle donc de l'équipe du pays qui pourrait donc remporter l'Euro 2016. Alors, Christian, quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Messi, mais il y a aussi Ibrahimovic qui dit au revoir à l'équipe Suède. Allô, Christian?
Allô?
Oui, on a Messi qui dit au revoir à l'Argentine, mais avant lui, il y avait Ibrahimovic.
Oui, Ibrahimovic qui prend sa retraite internationale également. Oui. Lui, c'est un peu contraint et forcé. Hein. Il a bientôt 35 ans. Il l'avait annoncé à demi-mot avant le début de la compétition, avant le début de l'Euro. Là, avant la fin du premier tour, il l'avait dit, en cas de qualification ou en cas d'élimination, cette campagne serait la dernière pour lui sous le maillot suédois. C'est pas une sortie comme il aurait aimé. On peut le le penser. C'est une sortie vraiment très discrète, plus que discrète, pas à la hauteur du personnage. Après, sous le maillot suédois, il n'a jamais vraiment eu la possibilité d'aller très très loin. Son entourage a toujours été moins fort, hein, évidemment, que l'entourage qu'il avait eu, qu'il a eu dans les clubs successifs dans lesquels il est passé. Zlatan Ibrahimovic, petit souvenir sous le maillot suédois, c'est deux souvenirs. Ce but de l'aile de pigeon en 2004 contre l'Italie à l'Euro 2004. Et puis ce retourné acrobatique fantastique contre l'Angleterre en match amical il y a maintenant trois ans. Voilà, c'est deux petits souvenirs de ce joueur vraiment fantastique. Très grand joueur en club, mais sous le maillot de sa sélection nationale, ça a toujours été un peu plus difficile pour lui.
Ouais. Alors, c'est toujours 2-1 pour l'Islande face à l'Angleterre. Nous jouons la 26e minute. On va faire un tour à Bamako. Bonsoir, Yaya.
Bonsoir, Bagassi.
Oui, on vous écoute.
Voilà, je le soulignais dans mon commentaire que vraiment il n'y a pas de favori naturel, sinon favori logique à cet Euro. Parce que déjà, le match que nous suivons déjà en direct, l'Angleterre, l'Islande confirme tout. C'est comme si mes propos étaient des propos prémonitoires, bien sûr. Et voyant aussi que l'Italie, qui n'était pas donnée du tout comme équipe gagnante à cet Euro, vient de battre lamentablement l'Espagne sur le score de 2-0. Et puis, il faut voir comment la France a peiné devant l'Irlande hier. Vraiment, il aurait été les talents exceptionnels d'Antoine Griezmann et aussi des circonstances. La France n'allait pas remporter ce match aussi de l'Euro. Je crois que maintenant, tout reste ouvert pour cette compétition quand même. C'est d'accord. Pour le plaisir de voir le football, bien sûr.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Yaya. Merci infiniment. Nous sommes à court de temps. C'est tout donc pour ce numéro de Sporama. Nous avions en ligne avec nous nos consultants. D'abord, Christian Mpanzou à Paris. Bonsoir, Christian.
Merci, merci à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée. Et nous avions aussi Jules Valentin Gouet à Libreville, au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Bagati.
Voilà, il y avait aussi.
Et toi, à la prochaine.
Voilà, et on avait aussi Nicolas Pinot avec nous. Et bonsoir et à la prochaine.